Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, je suis très heureux parce que tous les vendredis, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs sur Beurre FM, le grand déballage. Ah oui, le grand déballage comme le nom s'indique. À la réalisation, c'est Zora et puis des débatteurs, quatre sujets. Vous le savez, on était ensemble jusqu'à 20h et non pas à 19h30. Voilà, on va tenter cette petite expérience à 20h. Je vous annonce quand même les programmes. Un petit jingle peut-être entre-temps. C'est parti.
Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage. Avec Adil Farkan.
Elle est au top quand même, Zora, la réalisatrice. Elle est bien, elle est là, elle est présente, elle est au taquet. Rien à dire. Bonsoir à tous, c'est parti, vous le savez, quatre sujets qui ont retenu notre attention, quatre sujets qui ont marqué la semaine, quatre sujets qui ont secoué la semaine, quatre sujets, vous savez quoi ? Bien en colère. Parce que je vais parler d'abord depuis deux semaines des gardiens de prison qui montrent leur colère par des blocages. La situation devient explosive, on en parle. Le procès Jawed Ben Daoud, le logeur du 13 novembre, vous en souvenez, c'est le Bataclan. Eh bien, on en parle. On parle de ce prévenu, pourquoi, et enfin, vous comprendrez, c'est assez décousu et puis on va tenter de comprendre ce procès qui va durer des semaines et des semaines. Troisième sujet, la féminisation de notre société. Paraît-il, bon, ça provoque des clashs, et bien on en parle puisque y a-t-il eu une féminisation de notre société, c'est la question qu'on pose. Et enfin, la mort de l'historienne très peu connue Suzanne Citron, on en parle puisque c'est la fin d'une histoire pour Suzanne Citron. Et puis surtout, on parlera de diversité et d'inspiration, de culture tournée vers l'avenir. Ça c'est la grande question et c'est celle qu'on pose.
Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage. Avec Adil Farkan.
Attention, pour en parler, les influenceurs et les influenceuses, c'est comme ça que je l'appelle désormais, ils sont avec moi sur le plateau, ils sont ici. Je vais commencer, tiens, par mesdames peut-être, Sophia Kelouki, influenceuse, consultante en communication, rédactrice numérique RTL, influenceuse, et je continue encore, non ?
Merci
Sophia.
Bonsoir, Adil.
Bonjour, comment ça va ? Bonsoir.
Ça va, comment tu vas ? Bonsoir à toi.
Bah, moi je vais très bien, plaisir de que tu sois parmi nous.
Merci.
Tout va bien ?
Très bien.
RTL, vous déménagez là, non ?
Si, on a déménagé.
Ah, vous avez déménagé, ça y est ?
Ça y est, on est dans le 16e.
T'es contente des beaux locaux ?
Ouais.
J'aime bien comment elle me balance ça, je suis dans le 16e. Genre, nous, on est dans le trou, tu sais ? Ouais, vous êtes au bout de Paris, nous, on est dans le 16e. Tu sais, nous, c'est la classe et vous, vous êtes en bas. C'est ça, t'es en train de te foutre de moi, en gros.
Non, hein. Pas du tout.
Pas du tout. Bon, ça se passe bien, tout est rose.
Tout va bien.
Bon, super. Face à elle, eh bien, vous savez, c'est Audrey Pronestic, elle est journaliste indépendante.
Bonjour Adil. Et
ça va ?
À tous, ça va super bien. Je suis ici, c'est la famille.
C'est la famille.
Bah oui.
C'est ta famille. Je ne savais pas que c'était ta famille, moi,
bah
la radio.
Si, j'ai commencé ici.
Je sais, que... t'étais en stage et bah, tout, etc. Voilà. Tu connais la maison, t'as fait des trucs.
Exactement. Donc
Tu fais partie des doyens, presque, non ?
Oh, peut-être,
non
pas, peut-être pas, quand non. Même, mais non, mais forcément, je ne peux qu'être bien ici. C'est top, quoi. Voilà.
Bon, allez, à ses côtés, quelqu'un qu'on connaît, vous savez. Il s'appelle Ali Soumaré, il est conseiller régional. Tiens, tu as retrouvé la région, cher ami.
Ouais, j'ai retrouvé.
T'es content ?
Oui, content, parce que c'est toujours un honneur de pouvoir représenter, ou en tout cas d'être élu, hein. Ça, il faut pas s'en cacher. Et puis, c'est un accélérateur de particules pour pouvoir faire passer des messages.
Ouais.
En même temps, on est dans l'opposition, donc voilà.
Ouais, c'est
donc,
pas marrant, bah ouais, c'est pas la même chose, c'est pas Huchon.
C'est,
hein.
C'est pas la même chose.
Là, voilà. C'est Valérie Pécresse. Hein.
Voilà, c'est Valérie Pécresse, voilà.
Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est moins rigolo ?
Bah, c'est moins rigolo. Bah, de fait,
allez, bah, hein, bien, voilà, Valérie Pécresse, elle passe bien.
Moi, je parle du décalage entre le fait quand j'étais conseiller régional dans la majorité où on avait la responsabilité, donc on avait les mains dans le cambouis, et là aujourd'hui où on est là principalement pour dire ce qui va et ce qui va pas.
Ouais.
Voilà. Mais il y a des choses qui vont pas surtout.
Ça clash ou pas ?
Oui, ça clash. On a une commission permanente. Là, ça clash. Ça
ouais.
Clash.
Ouais. Je crois qu'il me semble que tu t'occupes de l'international désormais. Hein.
Alors, je m'occupe. J'ai plus de responsabilité.
Oui, ça, c'est vrai.
J'ai plus de responsabilité en tant que tel, mais du coup, dans le chef de file là, dans l'opposition, dans mon groupe, effectivement, je m'occupe des questions de logement et des questions internationales.
Il y a du boulot.
Et il y a du boulot, ouais, c'est pas
oulala.
Voilà.
Il y a du boulot. Face à toi, Ali Soumaré, eh bien, c'est quelqu'un aussi qu'on connaît, il s'appelle Jean-Claude Chikaya, il est chercheur à l'IPSE, n'est-ce pas ?
Exactement.
Militant engagé, bref, ancien aussi, président ouais. Aussi, de devoir de mémoire. Mon cher Jean-Claude, comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu m'as l'air tout timide là, qu'est-ce qui se passe ?
Non, je t'écoute, c'est parce que je penche la tête pour parler en même temps.
Non, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'il a pris, comme il y a un micro qui est en panne, il est obligé de prendre celui de Zora qui se trouve de l'autre côté, donc il a tiré le bras vers lui.
Voilà.
Donc du coup, il a le corps qui tend dans tous les sens.
Tête pour
il y a qu'un vrai fou pour moi ça, tu sais, c'est génial.
Voilà.
Bon, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Et vous le savez, vous aussi, qui nous écoutez depuis chez vous, partout en France, parce que c'est vrai que vous nous écoutez écoutez partout en France, eh bien, à partir de 19h jusqu'à 20h, vous pourrez interpeller, ça c'est la nouveauté, les influenceurs et les influenceuses. Vous déciderez vous-même s'ils ont été bons, pas bons, si vous partagez d'ailleurs leur point de vue, vous pourrez les clasher ou pas d'ailleurs. Ça, c'est à vous de voir. Vous pourrez nous interpeller tout à l'heure au 01 53 48 3000. C'est le numéro, Zora, c'est bien ça. C'est parti, c'est le programme qui vous attend. Eh bien, le grand déballage, c'est lancé.
Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Et pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, je l'ai toujours dit, mon fameux dicton, c'est quoi, Ali et Jean-Claude? Tiens, je vais vous piéger puisque vous me connaissez depuis très longtemps.
J'ai failli confondre avec celui de Francis Laloupeau.
Non, c'est le concurrent.
Il y a
libre expression là-dedans.
C'est ça, merci Jean-Claude. Et en toute liberté d'expression. C'est ma devise, ça. Non, mais c'est vrai, vous confirmez ou pas?
C'est vrai, depuis
qui
des années.
Qui parcourt maintenant depuis plus d'une décennie.
Ouais.
Exactement. Et en toute liberté d'expression. On n'a pas attendu les GG, nous. Hein.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, c'est les GG qui ont copié sur nous. Merci les amis GG, ça veut dire qu'on a de bonnes idées.
Exact.
Allez, c'est parti. Depuis deux semaines, les gardiens de prison montrent leur colère par des blocages. La situation, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'elle est explosive ou pas du tout? Est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce qu'ils ont raison, évidemment, de sortir l'écran et d'exprimer leur colère? Est-ce qu'ils ont raison aussi, également, si vous voulez, de faire ce blocus? Parce que aujourd'hui, l'État, et notamment la ministre de la Justice, veut les sanctionner. Elle a quand même commencé à les sanctionner. Alors finalement, ma question, est-ce que vous comprenez cette colère? Est-ce que la situation aujourd'hui, vous la comprenez, qu'elle devient explosive? Et puis surtout, est-ce qu'ils ont raison d'être en colère, ces gardiens de prison? Surtout, ils n'ont pas le droit, de citer, c'est-à-dire droit de manifestation. Jean-Claude Chikaya.
Ils ont toutes les raisons d'être en colère. Il suffit de lire... les nombreuses lignes de leurs revendications, et ce n'est pas nouveau. Donc là, c'est un point d'orgue, c'est un ras-le-bol. Leur insécurité quotidienne, le manque d'effectifs, à longueur de discours, que ce soit le gouvernement actuel ou les deux derniers, il y a un surcroît de demandes de sécurité, de sûreté à l'extérieur des prisons qui est là, hein, on le voit, que ce soit dans le métro, à travers le Vigipirate et autres, et à l'intérieur donc d'un lieu où normalement la sécurité et la haute sûreté doit être donc effective, et donc des personnes qui sont gardiens de prison, surveillants de prison, en tout cas les noms divergent un peu, mais leur rôle, eux, il y a un profil et autres, leurs revendications sont tout à fait légitimes.
Ils ont eu raison de manifester.
Ils ont eu raison de manifester.
Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de grève.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un accord, mais sans.
Parce que le ministère,
sans les 15%,
ils ont pas l'air réjouis. Hein.
Voilà, il y a un accord aujourd'hui, mais sans les 15% de la CGT et les 30% des faux. Donc, la ministre de la Justice, elle, prend ça comme un accord. Bon, les autres, ceux qui ne font pas partie de cet accord vont continuer sous d'autres formes la lutte, parce que bien sûr, les prisonniers, eux, sont impactés dans leur vie de tous les jours. Donc le travail va reprendre. Il y a un certain nombre de revendications qui ont été donc écoutées et qui ont trouvé donc un écho favorable, mais bien d'autres restent encore. Mais c'est du concret dans la vie quotidienne d'un salarié.
Vous parlez de ça parce qu'il y a eu un accord qui a été conclu avec le syndicat majoritaire.
Voilà, majoritaire.
Et les autres en face disent que c'est inacceptable.
Voilà, ils pèsent quand même 30 et 15%, ceux qui n'ont pas encore. Ils l'ont pas signé, donc...
Exactement, 30 et... Exactement, c'est pas mal. Bon. Audrey, on est ici, dis-nous tout.
Non, mais forcément, comme le disait Jean-Claude, le syndicat majoritaire, il représente 40%, donc des surveillants pénitentiaires. Donc, l'accord, il va être de toute façon appliqué. Maintenant, le fond du problème, est-ce qu'il va être résolu? Le truc, c'est qu'il faut vraiment que ça soit résolu, mais... à court terme, en fait, parce que c'est facile de dire voilà, on essaie de trouver des solutions, sauf que là, là on parle quand même de, c'est des vies qui sont en danger. Et de l'autre côté, faut pas oublier que si on en est là, c'est parce que les prisonniers, ils sont dans des conditions qui sont inacceptables. Donc ils ont eu raison de faire grève, parce que ça soulève déjà leur problématique à eux et la problématique de la surpopulation carcérale.
Ouais, parce que l'administration pénitentiaire a envoyé il y a quelques jour un courrier à tous les directeurs pénitentiaires de sanctionner les surveillants grévistes. C'est dur, ça. Hein. Oui, Alice Soumaré.
Alors, de manière factuelle, et c'est pas du tout pour défendre, parce que je m'inscris complètement dans l'analyse qui consiste à dire, et d'ailleurs, ça fait un moment que cette situation dure, parce qu'on a, parlé d'un certain nombre de raisons, mais il y a aussi la surpopulation, enfin, il y a aussi, c'est la surpopulation, c'est-à-dire le manque d'effectifs et une surpopulation carcérale avec des problèmes qui n'existaient pas il y a encore une quinzaine d'années, qui font qu'aujourd'hui, c'est devenu complètement explosif et extrêmement compliqué. Après, de manière factuelle, l'idée de la sanction, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est de dire, il y a eu un mouvement de grève. Enfin, de manière, j'essaie vraiment d'être factuel. Hein. Il y a eu un mouvement de grève, il y a eu des revendications, on a accédé à un certain nombre de revendications. Il y a un syndicat majoritaire qui a signé. Donc maintenant, on n'a plus de raison de faire la grève. Et donc c'est à ce titre-là qu'on dit que maintenant on va sanctionner parce que par ailleurs, ils n'ont pas tant fait valoir le droit de, enfin le fait qu'ils avaient manqué de respect au droit de grève, c'est de dire maintenant il faut tout ça que ça s'arrête et qu'on puisse reprendre. Bon, là-dessus effectivement, ça a été dit, mais moi je le dirais de manière un peu provocatrice, y compris comme ça.
Non mais depuis deux semaines ça dure cette histoire-là, on dirait qu'ils n'ont pas été ni entendus, ni écoutés, ni respectés, ni quoi que ce soit. Deux semaines ça fait long quand même.
Est-ce qu'on peut dire que 40%, ceux qui représentent 40% aujourd'hui de ce monde-là, qui sont quand même majoritaires, si eux à un moment donné décident de signer et d'accéder à cet accord-là, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné il y a une forme d'entente ou pas? Voilà, c'est un débat que je lance.
Alors attends Audrey, avant de redonner la parole, il y a Sophia Kelouki et ensuite je te redonne la parole. Faut pas hésiter.
Du coup, oui, moi, effectivement, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis totalement et je soutiens pleinement, effectivement, des surveillants de prison. Parce que ils travaillent dans des conditions qui sont pas des conditions. Ils font ça parce que c'est une vocation pour un salaire moyen de 2500 euros. Ça, faut pas oublier. Donc, voilà, il y a quand même le 11 janvier 2018, il y a quand même trois gardiens d'AP qui sont fait agresser par un prisonnier. Donc il faut pas oublier qu'il travaille quand même dans des conditions difficiles et pour
extrêmement pénibles. Voilà, certains.
Exactement. Et je vais juste vous rappeler que la prison de Fleury-Mérogy en Essonne, la plus grande prison d'Europe, où il y a 4500 détenus. Et il y a uniquement 1200 membres du personnel. Donc il y a quand même un truc qui il y a vraiment un réel problème. Donc effectivement, je les motive fortement à qu'ils continuent. Et je pense que même là au jour d'aujourd'hui, la ministre elle essaie effectivement de sortir de ce qui se passe. Moi, je pense que ça devrait même être le Premier ministre.
Non, mais ça a été loin dans cette histoire. Certains manifestants, d'ailleurs des surveillants, des gardiens de la paix, vous savez, parlent de trahison de leurs collègues. Hein. Vous nous avez trahis, vous avez été trop loin, etc. Vous nous avez... c'est inacceptable, votre comportement. Enfin, bref, toujours est-il, vous le savez, les amis, le syndicat majoritaire, il a signé le projet d'accord. Voilà, Audrey.
Moi, je voulais juste revenir sur le rapport du garde des Sceaux avec justement les surveillants pénitentiaires. C'est quand même, il faut souligner quelque chose d'important, c'est qu'elle a la réforme pénale à faire. Ça doit arriver, quoi. Donc, elle doit être ferme. Elle a un statut à avoir vis-à-vis de cette corporation. Donc, si l'accord n'est pas fait, en fin de compte. Elle se fait pas passer pour quelqu'un de responsable ou de stable. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous savez, elle est surnommée Farah Fawcett. Donc voilà, en gros, elle réfléchit pas trop par elle-même. Donc voilà, elle a tout intérêt à faire ses preuves et c'est une crise qui pourrait en entraîner d'autres parce que comme vous le savez, il y a eu d'autres crises.
C'est une des plus grosses crises qu'on ait connues jusqu'ici depuis l'arrivée de Macron. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, vous savez quoi? Elle a proposé le 25 janvier précisément au syndicat. Donc c'était hier. Au syndicat, un projet d'accord censé répondre à la colère des 28 000 surveillants. Parce qu'il faut quand même donner des chiffres à un moment donné. Il comprend quoi? Eh bien, des mesures pour améliorer la gestion des détenus radicalisés, renforcer la sécurité des agents, la création de 1100 emplois supplémentaires et une enveloppe de plus de 30 millions d'euros pour les indemnités. Alors, ça, c'est une proposition sérieuse que qualifient certains en matière de sécurité, en matière d'indemnitaire et en matière aussi de prise en compte de la profession. C'est ce qu'a expliqué la ministre de la Justice. Le Premier ministre, pareil, il a fait une déclaration, il a jugé cela tenable et les propositions du gouvernement tiennent la route. Alors, sauf que de l'autre côté, certains syndicats, eux, ils ne sont pas contents. Voilà.
Oui, mais ça, c'est...
Ils attendaient plus.
c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire qu'on connaît, enfin, on connaît les tendances, on sait qui a signé, qui a pas signé, c'est-à-dire il y a toujours eu, et sur un certain nombre d'accords, ça a toujours été la CGT qui critique la CFDT d'être les sociotraites ou en tout cas de trahison. Donc ça, c'est un peu vieux comme le monde. Je dirais même qu'à un moment, est-ce que des fois, alors c'est pas parce que je suis tendance CFDT, mais c'est ce que des fois, c'est pas d'autres sujets. Qui,
ah bon.
Comme ça, je le dis. Comme ça, je le dis. Mais est-ce que c'est pas des
il
fois...
a réussi à le glisser tranquillement, tu sais.
Non, mais comme ça, c'est le devoir de transparence. Mais et du coup, est-ce que c'est pas des fois d'autres sujets qui se jouent, notamment sur les postures. Des fois, c'est un peu ça, parce que on peut pas considérer qu'aujourd'hui. Et encore une fois, pour le coup, il y a toutes les raisons de critiquer le gouvernement Macron, et j'en ai à l'appel. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même des propositions qui sont faites, qui sont peut-être pas au niveau. Et d'ailleurs, c'est le sujet de manière générale. Comparaison n'est pas raison. Mais moi, mon problème principal, c'est pas tant, enfin, c'est évidemment les revendications, mais c'est quand même qu'aujourd'hui, les prisons aujourd'hui sont censées, entre guillemets, mettre à l'écart de la société et faire en sorte qu'à un moment donné, globalement, les gens se calment. Mmh. Aujourd'hui, une partie des prisons françaises, ce sont des repères pour justement fabriquer des projets de futures délinquances.
De futures délinquances. Eh ben, justement, on va en parler. Attends, Ali Soumaré, on va juste marquer la première pause publicitaire. Ce que je te propose, c'est de finir ton propos. Vous pouvez. Alors, j'ai vu qu'on a commencé déjà à nous appeler. Bon, pourquoi pas, on va peut-être en prendre quelques-uns à l'antenne. Ça se passe tout à l'heure au 0153483000. On continue à en parler. Reste avec nous. Ça se passe ici. Le grand déballage. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 18h22. Merci à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Sachez-le, la toute nouvelle émission tous les vendredis, à noter 18h20. Ça s'appelle Le Grand Déballage. Le standard est ouvert au 0153483000. Vous pouvez à la fois interpeller les influenceurs et les influenceuses. Si vous trouvez qu'ils sont actés de la plaque, pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous êtes d'accord avec eux, vous pouvez l'exprimer aussi également. Et vous savez, si vous avez également un commentaire, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous le savez, vous prenez toute part, évidemment, à ce débat. Qu'est-ce qu'on disait déjà à Lise Marais?
Non, mais moi j'ai suivi.
En tout cas, bienvenue, c'est parti, c'est le grand déballage.
Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Ali Soumaré, dis-moi, tu parlais tout à l'heure de radicalisation.
Oui, alors du coup là on est sur un autre débat alors. Donc du coup on est sur
toujours les gardiens de pénitentiaire. Oui, Jean-Claude.
J'étais resté en fait sur alors je veux pas déformer ton propos sur est-ce que les syndicats sont transcendés, quel que soit leur courant ou leur
sensibilité. Oui, voilà, c'est ça,
exactement. Tu as
par les revendications.
Hein non, en fait, je sais, parce qu'on est du coup.
Allez, je t'ai connu moins, amnésique.
du coup, on a. Mais parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'en fait, du coup, on a
fait tourner le
mec, il est complètement interloqué. Mais on parlait de quoi déjà, les amis? Attendez, je sais pas.
Le sujet, oui, mais.
Ah, j'ai trouvé de bon week-end.
Ah, tiens. Vous voulez que je vous parle de mon conseil national de demain?
C'est ça, voilà, exactement.
Donc voilà.
C'est ça?
Comment?
Le
oui,
PS,
on a un conseil national.
Oh, pauvre PS, laisse-le tranquille.
Ouais, mais j'ai encore.
Il a du mal à se redresser.
Comment? Mais on va y arriver.
Ouais. J'aime bien parce que Jean-Claude et Audrey et Sophia, je vous jure, ce mot-là, il me fait. Non, mais je préfère en rire.
Ouais.
On va y arriver, je l'entends depuis un peu plus d'un an maintenant, tu sais. On va y arriver, le PS. On est là derrière. On va y arriver, vous inquiétez pas. En attendant, on va y arriver. D'autres vous ont devancé, hein.
Non, mais je parlais des tendances, ouais, effectivement, qui
arrivent.
Qui traversent les mouvements syndicats et des fois les postures qui peuvent s'accompagner derrière. Et en tout cas, en tout état de cause, il y a un sujet qui est lié aux revendications et aux conditions de travail des gardiens de prison, et ils ont tout à fait, elles sont légitimes, elles ont leurs limites, parce qu'à un moment effectivement il s'agit aussi de pouvoir sécuriser ces prisons, ça c'est clair. Mais il y a un vrai débat pour moi, ou en tout cas il y a un vrai débat pour moi, c'est aujourd'hui sur l'état des prisonniers, y compris un prisonnier, je prends l'exemple d'un prisonnier qui peut aujourd'hui être arrêté parce qu'à un moment donné il a été pris en défaut de permis de conduire, qui se retrouve en sortant de prison à être formé à la grande délinquance. Donc les prisons aujourd'hui forment aujourd'hui une grosse partie de gens à la délinquance, et ça c'est le vrai sujet qui est lié aux conditions de travail, mais pas que. Aujourd'hui il y a une absence de vision aujourd'hui sur la manière dont on doit traiter, et d'ailleurs hors antenne on parlait d'une anecdote.
Moi, ah oui, c'est vrai, livre-nous cette anecdote justement, tu m'en parlais tout à l'heure.
Qui m'a extrêmement frappé. C'est que je fais partie d'un certain nombre d'intervenants qui sont invités à faire des interventions dans le milieu carcéral, et en l'occurrence c'était à Poissy, dans une dans une centrale, notamment dans le cadre d'un programme sur la déradicalisation. Donc l'idée, c'est tous les lundis, il y a un atelier avec avec des prisonniers pour pouvoir parler à un moment donné de ce sujet-là, très clairement,
de la radicalisation.
Bon, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc du coup, j'ai évidemment dit oui sans aucun problème. Et lundi, il y a deux lundis, en fait, finalement quelques jours avant, on m'appelle et on me dit finalement l'atelier est annulé.
Pourquoi ? Alors,
je leur demande pourquoi. On me dit parce qu'en fait l'atelier du lundi d'avant, en fait, c'est très mal passé. Les prisonniers ont eu des propos qui sont un peu borderline sur la question de la radicalisation, donc on a décidé d'arrêter.
C'est quoi les propos borderline?
Ça. Non. Alors, on m'a pas répété.
Qu'est-ce qu'on appelle des propos borderline?
Mais je pense qu'en fait, évidemment, il y a dû avoir un débat animé sur la laïcité, sur. Alors, je crois que si on m'avait raconté un propos à un moment donné en disant, mais il y a un grand complot français, mais toujours est-il que moi, je m'attendais pas à venir voir des prisonniers qui allaient me dire tout va bien, la République, tout va bien et autres.
Bah oui.
Bien au contraire. Donc, l'idée, c'était de pouvoir débattre. Et moi, je trouve ça pas normal aujourd'hui qu'en France, justement, qu'on ait des grandes politiques ou qu'on affiche des grandes politiques de déradicalisation et que au moindre problème on recule.
Mais si on annule, on va encore plus les radicaliser justement. Mais c'est quand même incroyable. Non, mais je te jure, ça me frappe pas. Je suis choqué parce que tu veux dire.
Mais il faut aller non seulement.
Attends, au contraire, un débat c'est ça, un débat. Laisser les autres s'exprimer.
Ça permet de connaître le point de vue des uns et des autres, savoir d'où on part et comment on peut aborder le problème. Et là, là-dessus, qu'aujourd'hui on prenne ces décisions là et à l'encontre même de la volonté politique qui consiste à dire il faut aller jusqu'au bout du sujet, eh ben je trouve que c'est encore un des syndromes de ce décalage français. Je fais pas du déclinisme français en le disant, c'est-à-dire qu'on affiche souvent, mais de droite comme de gauche, on affiche des politiques publiques et à la fin, eh ben nos politiques publiques, elles se traduisent par un recul là, par exemple sur cette question-là, parce que sous prétexte qu'il y a eu des propos peut-être même condamnables.
Mais si vous êtes choqué, vous nous appelez. Si ça vous choque pas, vous nous appelez aussi. Moi, j'aimerais vous écouter partout en France. Est-ce que ce que vient de nous livrer Alice Soumaré, justement cette expérience où il allait intervenir dans le cadre d'un atelier, ça a été annulé au dernier moment. Est-ce que vous trouvez cela choquant? Pas du tout. Est-ce que vous trouvez cela normal que, voilà, après des propos borderline comme vient de nous l'expliquer Alice Soumaré, 0153483000, on vous attend. Vous nous livrez votre point de vue. Jean-Claude Chikaya, Sophia Kelouki et Audrey Ponessi, on vous écoute.
Je voulais rajouter Jean-Claude. Très vite, en lisant toutes les revendications communes et singulières de chaque syndicat lié aux surveillants pénitentiaires. Je pense que, franchement, il n'y a aucune imposture et il n'y a pas de posture. Et je pense qu'ils sont plutôt transcendés parce qu'ils mettent en exergue.
Jean-Claude est plutôt dans CGT.
Non, je suis pas CGT.
Je suis pas CGT. Rassurez-moi, il n'y a pas que des syndicalistes quand même autour du plateau.
Je n'ai pas connu CGT ni épousé. J'ai jamais épousé la philosophie cégétiste. C'est pas mon bord syndical et mon bord politique. Voilà.
Comme ça, c'est clair, Ali.
Par contre, à la lecture de ce que toutes les plateformes syndicales, que ce soit celles qui ont signé cet après-midi, celles qui n'ont pas signé, il n'y a aucune imposture et aucune posture. Moi, je pensais que ça transcendait un petit peu. Surtout quand on lit les rapports des éducateurs en prison et à l'extérieur des prisons, les rapports du Sénat qui se sont succédés, ceux des juges pour enfants ou ceux des juges de grande instance, les avocats et autres, tous ceux qui ont peu ou prou rapport. Non, c'est aussi les parents et les familles qui vont au parloir et autres, qui peuvent, et surtout les prisonniers, eux aussi. Alors, à l'intérieur, comment on prépare, justement, dans le monde carcéral, qui est un monde à huis clos. C'est pour ça que beaucoup de, entre guillemets, d'auditeurs, téléspectateurs, à la faveur de cette mobilisation, apprennent le quotidien des surveillants de prison qui ont hésité au regard de leur profil à faire grève, mais on peut comprendre leur ras-le-bol. Il suffit de s'arrêter sur ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, c'est-à-dire le réel suffit. Il peut pas avoir je vais reprendre un slogan du gouvernement actuel, il peut pas avoir de nouveau monde sans un nouveau monde carcéral.
Très juste.
C'est-à-dire que on ne peut pas, ce qui se passe avant, dedans.
Je la garde, celle-là.
On ne peut pas avoir de nouveau monde. Parce que c'est à l'intérieur aussi de ce monde carcéral qu'on construit le nouveau monde. Parce qu'ils n'ont pas, pour définition, pour la plus grande partie, à rester à l'intérieur d'une prison. Et on sait bien que tous les rapports sociologiques le disent, c'est pas pour passer pour un bisounours ou un candide qu'une bonne partie des dysfonctionnements liés à des inégalités peuvent conduire à des carrières délinquantes qui te conduisent en prison. Les gens le savent, ça n'excuse pas, mais dans la défense d'un avocat, c'est toujours le profil individuel de la personne qui a commis
le délit ou pire, et qui nous parle de notre société. Donc on peut parler d'un nouveau monde économique, d'un nouveau monde social, et c'est pas un discours cégétiste ou ceci ou cela, mais on voit bien que...
T'aurais le droit même, hein.
J'aurais le droit, si j'étais cégétiste, je l'aurais dit, si j'étais philosophiste cégétiste, je l'aurais dit, mais là, franchement, il suffit intellectuellement de lire toute la plateforme de ce qu'ils disent et ce qu'ils revendiquent, on peut comprendre, et on se demande une chose, à la fin de la lecture de leurs revendications, comment ils ont fait pour tenir jusque-là.
Dites-moi, on va parler quand même de celle de la ministre, la ministre de la Justice. Aujourd'hui, est-ce que vous l'avez trouvée léger dans la gestion de crise, justement? Est-ce qu'elle a bien géré cette manifestation qui s'est tenue par les gardiens de prison, ou est-ce qu'elle a été légère?
Elle a été légère.
Audrey?
J'ai trouvé qu'elle a été méthodique dans sa communication. Après, au début, c'était c'était le flou artistique, on va pas se mentir. D'ailleurs, les surveillants pénitentiaires se sont vraiment pas privés de le dire. Ensuite, elle a, on va dire, passé la seconde en disant qu'effectivement, elle allait s'occuper des conditions sécuritaires, des rémunérations et des infrastructures. Bon, voilà, moi, j'attends de voir.
Justement,
en fait.
Elle voulait pas revenir sur la
Sophia
rémunération.
Kaloki.
Non, elle voulait pas revenir sur la rémunération. Elle voulait, effectivement, elle a justement tout énuméré, sauf la
rémunération des
prisons. Je vais y arriver.
Des prisons. Des gardiens
Elle considère que la rémunération ne faisait pas partie des premières revendications, et que du coup, ça a été une revendication qui a été introduite. Mais oui, moi, je trouve que beaucoup peut mieux faire, mais en même temps, elle est assez à l'image de la manière dont on traite aujourd'hui le monde carcéral. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui anime, et on va pas se raconter d'histoire, qu'est-ce qui anime la classe politique aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on se dit, à un moment, les prisonniers, c'est pas très populaire. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on n'a pas de raison de faire d'efforts particuliers, y compris sur le plan budgétaire, parce que ça serait mal vu par une certaine opinion publique.
Exact.
Et c'est comme ça, à un moment donné, que, donc, du coup, on se dit, il faut continuer à gérer cette question de manière austère. Alors, je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça, parce que ça permet, entre guillemets, aux Français de pas donner le sentiment, dans un contexte qu'on connaît, que finalement, on est en train de permettre aux prisonniers d'être dans de très bonnes conditions, pendant que les Français, aujourd'hui, se plaignent des Français qui sont libres, qui se plaignent de leurs conditions. Et d'ailleurs, justement, à travers le propos de Jean-Claude, pour aller dans son sauce, il y a un autre adage qui dit, on peut juger du degré de civilisation à la manière dont on traite ses prisonniers. Et c'est exactement ça aujourd'hui. C'est-à-dire, sur ces 20-30 dernières années, je veux dire, on peut juger du degré de civilisation aujourd'hui de la France, dans la manière dont aujourd'hui, on est en train de traiter le monde carcéral, parce qu'on considère aujourd'hui, on est sur des questions politiciennes, au sens où, en fait, de popularité, alors qu'il y a un vrai sujet de fond qui est peut-être impopulaire, mais qu'on doit pouvoir traiter. Comparaison n'est pas raison, mais ça n'a strictement rien à voir, mais c'est pour vous donner un exemple. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, il y a certains qui critiquent le fait qu'on puisse aider sur le plan médical des sans-papiers, en fait, et on le mesure uniquement à l'aune de la mesurette, alors qu'à la réalité, c'est avant tout une mesure sanitaire que de faire en sorte que les sans-papiers puissent être soignés quand ils sont sur le territoire français. Et si on n'est pas capable, à un moment donné, d'avoir le courage politique, et c'est pas de la posture idéologique de gauche de dire ça, mais c'est pour les sans-papiers, c'est une mesure sanitaire, et pour le monde carcéral, c'est avant tout, à un moment donné, protéger la société française et faire en sorte que la société française elle puisse avancer et qu'on fabrique pas.
Non, mais ça, on veut pas l'entendre. T'es en train de nous vendre quelque chose dont certains te taxeront d'utopique. Mais ils en veulent pas.
Parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'avoir une vision sur du long terme et de se dire, oui, tant pis si c'est impopulaire, mais abordons-le. Et nous, on sera peut-être, pour certains, on sera sacrifiés. Mais à un moment donné, ce sujet-là, il doit être posé sur la table. Sinon, on aura toujours ces caricatures.
Mais Ali, Sophia, tu trouves ça normal pour une prison aussi grande, Fleury-Mérogis, qui est une grande prison,
la plus grande d'Europe,
1200 personnes.
Mais c'est ce que je dis.
Je veux dire qu'à un moment donné, je sais pas, le gouvernement doit faire en tout cas quelque chose à ce
Mais c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la classe politique, de manière générale, de droite comme de gauche, n'a pas forcément bougé.
Citoyenne.
Parce qu'on considère que dans des arbitrages budgétaires, on va pas commencer par aller défendre le fait qu'on va rajouter de l'argent dans des prisons, alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est pas très populaire, parce que les prisonniers, c'est pas très populaire. dire. Donc on se dit, ben, on laisse le sujet, on l'aborde pas.
Ouais. Alors, pardonnez-moi, oui, Audrey.
Non, je voulais juste rajouter qu'il y a quand même quelque chose
rapidement, s'il te plaît.
Comme ça reste une question humaine, ces prisonniers, ils sont ensemble, mais pas forcément toujours pour les mêmes délits. Donc forcément, ça génère encore plus de problèmes. Donc encore une fois, on revient sur un manque de prise en charge et certains d'ailleurs ont besoin de soins psychiatriques, comme tu le disais. Lien.
On continue d'en parler. Vous le savez, on va marquer juste une courte pause publicitaire. On va parler de ce deuxième sujet, Jawad, le procès Jawad Ben Daoud. Vous savez, 31 ans, est en effet accusé d'avoir fourni la planque de la Seine-Saint-Denis, à deux terroristes en cavale après les attentats de Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés en novembre 2015. On en parle, restez avec nous. Vous pouvez commenter avec le hashtag LGD sur Twitter. Vous pouvez également commenter sur Facebook puisqu'on a diffusé un petit teaser vidéo que vous pouvez avoir sur BFM, sur la page Facebook BFM. Donc vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Et puis surtout, le 0153 48 3000, Zora vous attend tout de suite pour commenter l'actualité avec nous sur le premier et le second sujet. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 18h42. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, c'est votre émission hebdomadaire, l'émission qui s'intitule Le Grand Déballage sur BFM. Bienvenue à vous tous. Si vous venez nous appeler, commentez l'actualité, ça se passe au standard. Zora se fera un plaisir de vous accueillir au 01 53 48 3000 partout en France. Vous nous appelez. Second sujet, mesdames et messieurs, les influenceurs et influenceuses. Et je veux parler du procès, le procès qui va durer des semaines. C'est le procès Jawad Ben Daoud, le logeur du 13 novembre. Paraît-il, il est face à des incohérences. Alors, on parlera parce qu'il y a plein de choses, moi, qui m'ont un peu interpellé. Il parle de Macron, il mélange tout des journalistes. Il parle de Joe Star, de Snoop Dogg. Ouais, dans ce procès, on aura tout. Joe Star, de Snoop Dogg, de Macron, des journalistes aussi, des médias. Chacun en a eu pour son, voilà, petite citation comme ça. Bref, je voudrais qu'on dise aujourd'hui. Alors, il dit, lui, clairement. Bon. Disons-le, Jawad Ben Daoud, il dit, c'est là où on se pose la question, c'est là qu'on parle d'incohérence. Il dit, il a loué, mais il ne savait pas à qui il a loué. Est-ce que ça tient la route, messieurs et mesdames?
Non.
Les influenceurs?
Non.
Alors, Sophia, ouvre le bal.
J'ouvre le bal. Non, c'est faux. Je pense qu'effectivement, il devait certainement les connaître. Il a, parce que je pense qu'il y a eu suffisamment de communication autour du 13 novembre.
Toi, t'es convaincu qu'il savait que c'était des terroristes?
Oui, parce que même par rapport à son attitude devant le journalisme de BFM, bien sûr, où il est venu directement devant la caméra en leur disant qu'il connaissait pas du tout les personnes qu'il avait donc louées pour en plus un montant que je rappelle de 152 €. Donc quand même, il y a quand même anguille sous roche. Donc je pense qu'effectivement, il devait au moins savoir qui étaient, parce qu'en plus, il retrouve...
Donc toi, tu considères qu'il n'est pas de bonne foi?
Des ADN. Oui, je pense qu'il n'est pas de bonne foi, en plus.
Non, mais on écoute, donne un spectacle. On ouvre le débat, on verra bien. Jean-Claude Chicaïa, Alice Soumaré, Audrey Pronesti, qui veut prendre la parole? Audrey, allez, honneur aux femmes, et après, je distribue la parole aux garçons.
Alors déjà, quand on voit le personnage, effectivement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que vraiment il est sérieux? Parce que comme tu viens de le dire, Adil, franchement, il a des réflexions, waouh, quoi. On se demande, ils sont combien? Sauf que...
Oui, mais il dit une phrase quand même, j'aime trop la vie, je referme les guillemets, il dit pour avoir hébergé des djihadistes.
Oui, mais parce qu'en fait, il joue sur le fait que, il n'est pas pratiquant, comme il a été condamné pour trafic de stupéfiants, qu'on l'appelle le 666 dans la prison, justement, il ne peut pas être intégriste. Voilà. Donc ça, c'est sa logique. Moi, ce qui me préoccupe, parce que pour l'instant, j'arrive pas à me dire s'il est innocent ou coupable, c'est que j'ai peur qu'il y ait un amalgame, parce qu'en fait, justement, à trop en faire comme ça, alors soit effectivement c'est son naturel, il parle comme ça, et là, franchement, on peut rien pour lui. Mais le problème, c'est que à trop en faire, parce que on dit, tout le monde dit, oui, c'est pas le procès du 13 novembre, ça on le sait, sauf que ça reste quand même le premier procès qui va tourner autour du 13 novembre, et on va quand même rappeler qu'il y a 500 parties civiles, qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de ça, et en fin de compte, à trop en faire, et ben même s'il est pas coupable, et ben il peut se rendre coupable. Alors on sait que il risque 3 ans de prison.
Je le rappelle, hein, Jawed Ben Daoud, il est jugé jusqu'au 15 février pour recel de terrorisme.
Dans 6 ans parce qu'il
est. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais expliquer. Ouais, voilà. À la base, c'est 3 ans de prison, mais comme c'est un récidiviste, c'est qu'il a été accusé pour homicide, il a été condamné à 8 ans de prison. Il risque 6 ans de prison, mais comme ils veulent, les avocats de la partie civile, ils veulent requalifier les faits, donc ils veulent même carrément doubler la peine, et donc il peut même carrément aller jusqu'à 12 ans de prison. Ouais. Donc voilà, en fait, donc à trop en faire. Enfin, bref, moi je sais pas encore s'il est coupable ou pas, et puis je suis pas dans sa tête, mais c'est vrai qu'il a une façon.
Non, mais c'est important, il faut qu'on dise les choses clairement. Elle a une qualification retenue pour avoir fourni un logement aux terroristes du 13 novembre. Un temps poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes. Finalement, toutes les questions maintenant, on peut se les poser, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que soulève Audrey Prenesti, bon, tu te dis, est-ce que ça tient la route? En même temps, Sophie, elle dit, bon, moi je crois pas ça bonne foi. Allez, tiens, on a quelqu'un. On a quelqu'un qui nous appelle, on a un auditeur, 0153-48-3000. Je vous le rappelle, vous pouvez nous appeler parce que vous aussi, vous avez le droit de citer ici, vous, et l'antenne est ouverte depuis tout à l'heure pour livrer votre sentiment et votre point de vue. On va accueillir Saïd du 93. Bonsoir Saïd.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, tu nous appelles de quelle ville Saïd ?
De Saint-Denis.
De Saint-Denis. Bienvenue à toi, on t'écoute.
Ouais, je voulais dire par rapport au jeune homme là, qui est incarcéré là.
Oui, Jawed Ben Daoud.
Ouais.
Quel est ton sentiment toi, dis-moi ?
Moi, mon sentiment, bon, il y en a qui disent, oui, il est au courant, Tadati, mais je vais vous expliquer un truc vite fait.
Oui.
C'est que dans les banlieues, on connaît des gens, ils ont des appartements, presque des taudis, des appartements comme ça, pour les gens qui, disons qu'ils ont une galère, ils ne savent pas où dormir. Mmh. Et moi, je connais des gens, mais Wallah, c'est vrai ce que je vous dis. Hein.
Oui, mais on écoute, moi j'écoute jusqu'ici, je t'arrêterai s'il y a le moindre souci.
Il y en a un qui est en galère, qui vient le voir, il dit, voilà, j'ai un pote, il est en galère, tu ne veux pas l'héberger pendant 3-4 jours, une semaine, 10 jours. Et le mec, il l'héberge, mais il paye au noir. Il n'y a pas de facture. Il paye au noir. Le mec, il sait même.
Moi, ça, c'est une pratique qu'on connaît. Il a raison, Saïd, c'est vrai. Ça ne vous surprend pas, non, autour de
non,
ce plateau?
Non, c'est beaucoup.
Oui.
Voilà, c'est par rapport à cette personne qui lui dit voilà. Et le mec, qui lui loue, mais il y en a plein comme ça. Peut-être que Ben Daoud, il a à voir quelque chose, mais peut-être qu'il n'a pas à voir quelque chose. Et pour moi, c'est un 50-50. Il ne faut pas tout de suite le condamner. Il ne faut pas faire comme les autres le condamner. Parce que ça, ça se passe couramment. J'ai un pote, il lui loue. Jusqu'à que le mec qui retombe sur ses pieds, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 3 jours, des fois c'est 2 jours. Oulala Adim, ça arrive. Maintenant, peut-être qu'il a à voir. Mais il ne faut pas le condamner sur parce que on loue un appartement, on ne sait même pas à qui, on ne connaît pas. Ouais,
je sens que le débat est ouvert et qu'il s'annonce d'orgée déjà. Évidemment, sous une teneur,
je vais juste rebondir.
Sophia veut rebondir.
Je vais juste rebondir. Bonsoir Saïd. C'est juste bonsoir. Effectivement, on ne condamne pas. C'est effectivement, on se pose la question sur est-ce que ce fameux donc Jawed est au courant ou pas de ces personnes qui l'a hébergé, en sachant que nous étions la veille en alerte si on peut le rappeler en alerte maximum au niveau de
je rappellerai les différents dialogues justement.
D'accord.
Parce que j'ai un peu assisté à tout ça et j'ai je vais vous dire oui Saïd.
Oui, bien sûr, on est en alerte, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on est en alerte que les gens, ils arrêtent de louer des appartements au noir. Je sais pas comment vous expliquer.
En gros, ça, il est en train de nous dire que aujourd'hui, c'est une pratique courante, c'est-à-dire dans les quartiers populaires un peu partout, c'est-à-dire qu'on loue sous la forme voilà, de main à main, c'est-à-dire je te rends service, tu me rends service, c'est en train de nous dire et que tu es en train de nous faire comprendre en gros Saïd que Ben Daoud, bon, c'est 50-50. On a bien compris, c'est ça.
Voilà. Moi, monsieur, je suis contre le terrorisme, mais à fond la caisse, hein, je vous le dis direct. Hein. Je suis contre le terrorisme à fond la caisse. Pour moi, je vais être grave. Moi, les terroristes, il faut les mettre en prison à vie. Et on parle même pas de. On les met dans une cage, on parle même pas de sang. Moi, je suis catégorique. Mais, il faut dire, il faut aussi laisser. Il faut aussi voir la vérité. Est-ce que vraiment. Il est coupable ou est-ce qu'il a loué comme tout le monde y font, je dis pas tout le monde, comme beaucoup y font dans les quartiers.
Merci Saïd pour ton intervention. Reste fidèle. Merci, on va accueillir peut-être une auditrice. Nariman, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, tu nous appelles de Paris.
Oui.
On t'écoute, Nariman.
Merci. J'ai une question concernant les prisonniers qui ont une maladie mentale.
Oui.
Je ne comprends pas comment se fait-il qu'un malade se trouve dans une prison. Je sais qu'il a des contrats comme ça sans aucun motif, parce qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas sa place la prison. Mmh.
Qu'est-ce que tu veux nous dire par là ? C'est-à-dire, parce que là, tu reviens en arrière sur le sujet qu'on a traité il y a quelques minutes.
J'ai appelé tout à l'heure, on m'a dit, il faut rappeler.
Oui, vous avez raison, mais il n'y a pas de souci. Je veux juste essayer de comprendre pour essayer de cadrer un peu. Tu veux nous embarquer où, vers quoi précisément, dans le cadre de cette manifestation des gardiens de la paix ? Des gardiens de prisonniers.
Alors, ma question, elle est précise. Comment se fait-il, justement, les gardiens de prison, ils sont pas formés pour travailler avec des gens qui ont des problèmes comme ça.
Toi, tu considères Nariman qu'ils sont pas formés. Ils manquent de formation cruelle.
Bien sûr, ils sont pas formés pour travailler avec des.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, Audrey.
Exactement.
Avec des personnes comme ça. Oui.
Eh ben, merci Nariman pour ton intervention.
Je ne comprends pas comment ça se fait qu'un malade, au lieu qu'on le ramène dans un hôpital où il y a des structures, des appartements thérapeutiques, ce genre de choses, il n'est pas dans une prison. Je sais qu'il n'est pas ancré.
Non mais ta question elle est légitime, elle est tout à fait évidemment. On peut se la poser, elle le disait tout à l'heure. Merci Nariman. Tu restes fidèle au grand déballage. C'est l'émission que tu retrouves tous les vendredis de 18h à 20h. 01 53 48 3000. Partout en France, vous nous appelez, vous réagissez, vous commentez comme tous les auditeurs. On va accueillir Khalid qui nous appelle de Dreux. Khalid, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Khalid.
Barakallahu fik. Ça va ?
Bienvenue, très très bien. Toi, tu voudrais réagir sur quel sujet ?
Sur le sujet de Jawed.
Jawed Ben Daoud.
Comme quoi, on était déjà coupable et qu'il ne savait pas.
Oui.
Je peux dire aussi pareil, que je ne pense pas que la personne, quand ils vont venir pour louer, vont dire oui, on est terroriste. Ça ne se dit pas.
Oui. Oui.
Donc, automatiquement, moi, je crois en ses paroles. Comme quoi, il ne savait pas et il voulait se faire un billet. Quoi.
Toi, tu crois son innocence quand il dit clairement. Parce que, attendez, non, mais c'est très important ce que dit Khalid.
Ouais.
Parce que je vais quand même rappeler, il dit, dans le cadre de ce procès, Jawed Ben Daoud, il est vêtu d'un gilet zippé, rouge du PSG, soir-là, qu'il portait, quand il a rencontré les deux terroristes ce soir-là. Il dit, j'ouvre les guillemets, il dit la chose suivante, il demande au djihadiste, ça c'est Jawed qui parle, Ben Daoud, il dit, ça va mon pote ? Et après lui avoir serré la main, et l'autre, il lui répond, je me suis pris la tête avec la mère de mes enfants, j'ai passé 3 jours de fils de pute, pardonnez-moi, mais là j'ouvre les guillemets, je veux faire la prière, je veux me laver, et je veux dormir. Jawed Ben Daoud, lui répond, oh mais tu viens d'où ? Et l'autre, il lui répond, je viens de Belgique. Voilà. Et il lui dit, derrière, tout de suite, tu as la direction de la Mecque parce que je veux faire ma prière. Et là, il lui dit, franchement, je ne fais pas la prière, frère. Il lui a répondu ça. Comment j'ai pu être assez con pour ne pas capter ? Demande le prévenu au tribunal. Là, il s'adresse à la présidente, à tout le monde. Hein, il dit, j'ai été défoncé, madame. Le 17, le prévenu raconte avoir pris de la cocaïne, puis fumé du cannabis. À aucun moment, je me suis dit que le mec est en cavale, affirme-t-il. Il confiera à tout le monde, à sa compagne. Ils sont chelous. Ils veulent juste faire la prière et dormir. Alors, il affirme que son complice, etc., ne connaissait pas le profil de ces hommes. Madame, sachez-le, Mohamed Souma qui me ramène à des terroristes, c'est comme je vous le disais, Joe Star a rejoint Daesh. Ah, voilà. Et là, elle lui rétorque, elle dit, laissez Joe Star de côté, etc., parce qu'il mélangeait un peu tout, parce qu'il a commencé à dire Macron, écarté journaliste, c'est qu'ils sont un peu bizarres, non, vous avez vu. Et elle lui dit, madame la présidente, si vous voulez bien laisser Macron en dehors de tout ça. Bref, il était important de rappeler ça, parce que Khalid de Dreux a soulevé la question. D'accord. Khalid, est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Ouais, c'est en disant ça là, il dit quelque chose de très très con, quoi. Entre parenthèses, ça, je suis pas très d'accord sur la façon comment il dit les choses. Puis il dit, il fait la prière, il a demandé à faire la prière. Donc c'est quoi? C'est tous ceux qui font la prière, ils ont un profil terroriste. C'est pas très crédible.
Moi, je vous raconte ça parce que j'ai assisté un peu à quelques jours de procès. Et voilà. Donc moi, je vous soumets ces déclarations. On n'est pas en train de dire qu'il l'est pas, etc. C'est pour ça que je dis, on prend des pincettes dans ce débat-là, parce que je connais très bien la suite, n'est-ce pas? Donc, le débat continue. Khalid, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci, gars.
Merci. On a des appels aussi. On marque une courte pause, on va les prendre. On va écouter aussi Jean-Claude Chikaya, Ali Soumaré. 0153483000, les deux personnes qui viennent nous appeler, restez avec nous, on vous prend dans une poignée de minutes. C'est le grand déballage.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Dans une poignée de minutes, il sera 19h. Bienvenue à celles et ceux qui m'aident à nous retrouver. Sachez-le, notez bien votre rendez-vous, le grand déballage, l'émission hebdomadaire sur Beurre FM. C'est la vôtre aussi, au 0153 48 3000, avec nos débatteurs qui sont sur le plateau. Ali Soumaré, conseiller régional. Jean-Claude Chika est chercheur à l'EPSE. Sophia Kelouki, qui est influenceuse, consultante en communication, rédactrice numérique à RTL. Et Audrey Pronesti, journaliste indépendante.
Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Vous savez, l'antenne est ouverte. Je le rappelle, on parle du procès Jawed Ben Daoud. Et ça provoque évidemment, et c'est normal, hein, beaucoup d'appels, beaucoup de leur sentiment de livrer un petit peu chacun son point de vue. On va accueillir d'abord Rachid de Paris, puis Saïd de Toulouse. Et bien sûr, je ne vous ai pas oublié. Rachid de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute.
Alors, je me permets d'appeler parce qu'en fait, je suis un peu... Vous savez, j'ai l'impression que tout ce qu'on entend sur les jeunes de banlieue, le terrorisme et Jawed, en l'occurrence, pour ce qui lui arrive, enfin, pour moi, il est coupable et innocent en même temps. Alors, déjà, il est coupable de louer un appartement sans savoir à qui, sans savoir pourquoi, parce que sans parler de terrorisme, il peut se passer tellement de choses. Donc, déjà, là-dessus, il peut être que coupable. Et innocent d'un autre côté parce qu'on...
Non mais ça se passe au Black, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Rachid du 9-3.
Mais ça il a pas à le faire, enfin, je veux dire là il prend des risques, en fait ce qui se passe dans les quartiers, tu peux louer ton appartement deux jours et quelqu'un peut organiser un gros trafic de stupéfiants à l'intérieur,
c'est vrai.
Organiser tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
Déjà rien que ça, il a beaucoup de questions, enfin il a des comparantes par rapport à ça.
Il a faute.
La preuve, c'est ce qui lui est arrivé. Et en plus derrière on l'accuse de terrorisme, qu'on mette tout le monde dans le même panier. Vous savez, une fois j'ai eu affaire à un jeune de banlieue comme ça qui était accusé, la police était venue chercher chez lui. Il est parti raconter à des jeunes filles qu'il fallait enlever en Syrie. Et à un moment donné, je commençais à lui poser des questions, à savoir pourquoi il a fait ça. Et vous savez, il m'a répondu d'une manière, avec déjà un vocabulaire, et un langage.
Dis-nous Rachid, c'est quoi?
En fait, vous savez, je vous promets, la manière de me répondre et les arguments qu'il donnait, c'est les mêmes arguments qu'on peut donner pour emmener une copine en boîte de nuit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de principe derrière tout ça. C'est juste des jeunes perdus à qui on donne une image royale, une image magique. Et ils s'embrigadent à l'intérieur, ils se retrouvent dans des...
Rassure-moi Rachid, quand même, c'est pas à l'image de notre société et des quartiers populaires.
C'est à l'image des gens perdus dans les quartiers populaires, oui, bien sûr.
Ouais, d'accord.
Oui.
Intéressant ce que tu dis.
Et il y a des gens qui rentrent dans le terrorisme, comme vous dites. Il y a des gens qui rentrent dans ces idéologies-là, mais sans savoir vraiment pourquoi. C'est juste qu'en fait, ils se lèvent tous les matins en sachant pas quoi faire. Ils n'ont pas de boulot. Alors, c'est peut-être de leur faute, ça, c'est un autre débat, mais il n'y a pas de travail, pas d'argent, pas de famille, pas de repères, papa alcoolique, maman, j'en sais rien. Enfin, chaque, ils sont perdus. Et ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur promet la lune. Donc derrière tout ça, moi je me demande si la France elle a pas sa responsabilité au lieu de prendre tous ces jeunes là et de dire voilà bah c'est de leur faute, il faut les mettre en prison, faut les
empêcher. C'est un débat, effectivement c'est un autre débat.
Faudrait peut-être prendre le problème en amont. Et des jeunes de quartier comme ça, il y en a énormément.
Si vous êtes d'accord, vous nous appelez 0153 48 3000. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a énormément dans les quartiers populaires partout en France? Est-ce que vous partagez le point de vue de Rachid? On vous attend au 0153 48 3000. Merci Rachid pour ton témoignage.
De rien.
On va accueillir en direction Toulouse. On va accueillir Saïd. Bonsoir Saïd.
Allô ? Oui, bonsoir.
Bonsoir, on t'écoute. Bienvenue.
Merci beaucoup, c'est super sympa. Bon, écoutez, super déjà l'émission.
C'est sûr, il est Toulouse.
Merci.
C'est sûr, il est Toulouse.
Voilà. Alors ensuite, donc voilà, par rapport à...
Ali Soumaré a reconnu ton accent de Toulousain.
Reconnu mon accent toulousain.
Notre influenceur, le conseiller régional, il me dit bah oui, ça c'est l'accent de Toulouse.
Ça change de l'accent de Paris, quoi.
C'est ça. Allez, on t'écoute, mon cher ami.
Alors, mais quand, comme mon collègue Saïd, donc de Paris.
De 9-3, du 9-3.
Voilà, qui était juste précédemment Rachid, voilà. Je partage et je partage pas leur point de vue à tous les deux sur tel et tel point, à savoir, bon, on loue à quelqu'un comme ça de façon occasionnelle ce qui se passe dans les banlieues, certes, mais bon, et à savoir quand même ce jeune homme, Jawad Ben Daoud, est quand même quelqu'un d'assez mature. C'est pas un petit minot, c'est pas quelqu'un qui, voilà, il est quand même propriétaire de cet appartement.
Il a 31 ans aujourd'hui.
C'est pas propriétaire.
Ouais. Attention, non, il est pas propriétaire.
C'est un autre délit d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, je l'ai sous les yeux, je confirme. Il est pas propriétaire de ces appartements.
Il est pas propriétaire, autant pour moi. Donc voilà.
Non, il s'est approprié de manière.
Exactement.
Tu sais comment ça se passe? C'est ce qu'il lui expliquait Rachid du 9-3 tout à l'heure. En fait, il s'est approprié les locaux.
Eh bien, il s'est approprié les locaux, mais écoutez, donc déjà, partant de ce principe-là, son jugement commence, et donc c'est quand même pas en sa faveur que ça va être tiré cette chose-là. Mais bon, louer un appartement à des gens qu'il ne connaît pas, je pense que ça se fait pas trop. Même si ça se faisait en contrepartie d'argent ou autre. Bon, après, ce jeune homme prétexte que bon, il était sous l'emprise de stupéfiants. Juste donc quand il a accueilli ces messieurs, bon, ça fait pas de lui un innocent sur toute la ligne. C'est pas un argument, moi je pense, qui serait quand même qui aurait un certain poids, quoi, devant une cour d'assises. On traite des affaires de terrorisme. Il y a eu mort.
Ce procès va être long, hein. Il est jugé jusqu'au 15 février, hein. Ça va être long, ça va être laborieux, cette histoire là hein.
Mais bien sûr, donc laissons, moi ce que je dis, et ça c'est comme on a dit, ça ne regarde que moi, laissons à la justice faire, donc vraiment lui laisser faire son travail correctement, et en espérant qu'elle le fasse le plus correctement possible, parce que bon, malheureusement, des bavures, il y en a eu, hein, il y en aura toujours, mais bon, faisons confiance à la justice, et je pense que... S'il est, comme disait Saïd, du 9-3, coupable et mitigé à 50-50, là, pour l'instant, personne n'est dans le droit de dire qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable.
Bien sûr. Non, mais on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On est là pour livrer un sentiment, des commentaires, etc. Et on peut le faire, hein, en toute liberté d'expression, sans aucun problème. Parce que nous, ici, on s'interroge, hein, mon cher ami Saïd.
Bien sûr, tout à fait. Mais par contre, il a accueille des gens qui, sous prétexte que j'ai pas trop suivi l'histoire par rapport au fait que ils ont proposé de faire la prière, donc ces locataires-là, soi-disant locataires, et lui rétorquant que non, je ne fais pas la prière, bon, libre choix à tout le monde d'exercer...
On n'a pas, si vous voulez, évidemment, à porter de jugement sur quoi que ce soit.
Exactement.
Merci, donc, Saïd.
Mais écoutez, avec grand plaisir...
reste fidèle.
On peut en parler des heures et des heures, mais bon, juste une dernière chose.
Dis-moi.
Que je pourrais, je vais me permettre de dire ça à tous les Français qui sont Français, on va dire entre guillemets, et donc à ce pays-là qui quand même est un pays magnifique, surtout, ne faites pas d'amalgame. Tout ce que je veux passer, moi, comme message.
Eh ben, merci Saïd pour ton message. On voit, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là sur l'antenne de Beurre FM. Dans le grand déballage. C'est aussi ça, le grand déballage aussi. On déballe tout. C'est vrai, c'est le principe. On va accueillir Sonia, qui nous appelle du 9-3, et puis on ira direction Grenoble et UCF également. Sonia, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, tu nous appelles d'où précisément? Quelle ville?
Dans le 93 de Montreuil.
Oui. Montreuil, bienvenue à toi, on t'écoute.
Merci. Alors moi, c'était juste effectivement pour avoir une petite réaction par rapport à ce qui avait été dit sur les quartiers. Bon, justement, je suis issue, on va dire, pas d'un quartier de banlieue parisienne, mais d'un quartier de ZEP, éducation prioritaire en Normandie, issu de l'immigration. Effectivement, il ne faut pas faire de généralisation, il y a des jeunes qui s'en sortent très bien. Hein. On peut être dans un quartier un peu difficile, y avoir vécu et puis réussir ses études et travailler pour un grand groupe. C'est pour ça aujourd'hui, alhamdoulilah. Si je repense effectivement quelques années en arrière, on était plusieurs jeunes issus de l'immigration, avoir fait notre lycée, nos études. Pour certains d'entre nous, ça ne nous a pas empêché de grandir et d'avoir un travail.
Mais je veux qu'on reste sur le sujet de Jawad Ben Daoud. Dis-moi, Sonia, toi, quel est ton sentiment?
Moi, effectivement, c'est moi j'ai trouvé ça extrêmement en fait extrêmement surprenant en fait. C'est très très bizarre, c'est très confus, c'est et je peux comprendre effectivement que pour les familles de victimes, ça soit compliqué de bah, de pouvoir entendre cette version. On ne sait pas comment il a pu effectivement laisser entrer des personnes dans un appartement sans savoir qui ils sont. Ça, c'est vrai que c'est un peu borderline, même un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, ça se comprend tout à fait. Après, il faut laisser la justice faire son travail, mener l'enquête et voir et remonter jusqu'au bout. Parce que
ouais. Je pense que c'est ouais. Le niveau des bien sûr.
La lumière, en fait.
Merci, Sonia.
Voilà.
Merci Sonia, 19h07. Bien sûr, les influenceurs, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai juste donné la priorité un peu aux auditeurs. C'est aussi important, c'est aussi leur émission, Faisal de Grenoble. Bonsoir Faisal.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue à toi. On t'écoute.
Merci beaucoup. J'écoute tous les commentaires là, depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on parle de. D'un procès, mais avant tout ça, il y a eu des morts, pas mal de morts. Mmh. Des enfants, ça aurait pu être beaucoup d'un. Vos parents.
Pas mal de morts, c'est 130 morts hein, et des centaines de blessés, ouais, on parle de ça. Voilà. C'était en novembre 2015.
Voilà, ça aurait pu être mes enfants, ça pourrait être ma femme, ça pourrait être mes parents, ça pourrait être mes frères.
Très juste.
Frères, mes neveux. Et moi, ce qui. Voilà. Pour moi, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Mmh. Voilà.
Donc pour toi, tu l'as mis, de ce que je comprends des propos, pour toi, Jawed Ben Daoud est coupable.
Pour moi, ce jeune homme, pour moi, pour moi, je ne sais pas qu'il est coupable. Moi, je suis pas un jury, je suis rien du tout. C'est du fait que ce jeune homme, il s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas y être. Il a fait des actions qu'il n'aurait pas dû faire. Certes, il l'a fait, donc il assume. Voilà, s'il est là-bas, c'est pas pour rien. Voilà.
Bon, merci Faisal pour ton commentaire.
Ah voilà, moi c'est bon, il y a eu des morts, des enfants, etc. Oui. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, tout simplement.
Merci Faisal, merci à toi. Je vais accueillir Youssef. Bonsoir Youssef.
Allez.
Bonsoir Youssef.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, tu nous appelles d'où précisément Youssef?
De Nîmes.
Nîmes.
Oui,
on t'écoute, bienvenue à toi.
Voilà, merci, c'est sympa. Ben écoutez, je vous ai écouté sur ce débat-là, c'est un débat qui est très très intéressant.
Merci.
Après, il faut dire que dans cette affaire, il y a pas mal d'ambigu. Donc, porter jugement sur quiconque est difficile, parce que on n'a pas les éléments que eux ils peuvent avoir par rapport à nous. Après, moi, ce que je voudrais réagir personnellement, c'est est-ce que parce qu'il s'appelle Monsieur Jawed qu'on en fait une affaire autant?
Qu'est-ce que tu sous-entends, cher ami Youssef? Attention, tu es en train d'avancer. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous, issus de parents immigrés, on n'a pas le droit à l'erreur.
Ouais. Et Audrey, attends, tu as fait réagir Audrey et Sophia. Audrey d'abord.
Alors, Youssef, si je puis me permettre, il s'est quand même présenté spontanément devant les caméras il y a 2 ans. C'est quand même lui.
En direct sur BFM TV.
Voilà, c'est quand même lui qui est venu en disant ça s'est passé chez moi, j'étais pas au courant. C'est ça en fait. Donc après, je suis d'accord, faut pas faire d'amalgame. Mais je partage ton point de vue. Je me permets de te tutoyer. Là-dessus, on est d'accord. Faut pas faire d'amalgame. Ça c'est clair, c'est net.
Voilà.
Mais faut pas oublier que dans cette histoire, c'est lui qui s'est présenté devant les caméras de BFM TV en disant qu'il n'était pas au courant. Enfin bref. Et après. La suite, on la connaît. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire.
Attends, il y a Youssef, Sophia. Pareil, voilà, souscrit de ce qu'elle dit. Youssef, on t'écoute.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Je ne le juge pas, mais cette affaire, elle est trop floue.
Pourquoi tu la considères trop floue? C'est quoi ces zones d'ombre floues que tu sous-entends?
Flou, c'est que Dieu merci, on est dans un pays qu'on a le droit de parler, qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. Mais moi, pour le juger lui spécialement,
je reste perplexe.
Perplexe, c'est voilà, on peut se poser la question. 01 53 48 3000. Merci Youssef de Nîmes.
Ben merci, c'est sympa.
Allez sous-marin. Jean-Claude Chikaya, on vous a pas entendu.
Oui, messieurs, alors, ça va un peu dans la lignée, c'est-à-dire qu'évidemment on a le débat là-dessus, mais en même temps voilà, on a un point de vue, mais on n'est pas juge, on n'a pas tout le fond de dossier, on n'y comprendra peut-être pas. D'ailleurs, peut-être qu'on arrivera au bout de tous les procès et qu'on n'y aura peut-être pas toujours tout compris. Mon point de vue, mon sentiment, et ça vaut ce que ça vaut. Oui. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un irresponsable.
Oui.
Voilà. Qui, par moment, même la fin peut justifier les moyens, au sens où en fait, bon, bah, l'appât du gain et autres et tout. Je pense qu'il devait peut-être être au courant du climat et peut-être qu'il les a trouvés chelous, même sur le plan, sur le contexte sécuritaire dans lequel on pouvait être. Mais je pense que le type était dans son truc à lui. Est-ce qu'il a épousé les thèses de djihadistes? J'ai pas l'impression, mais encore une fois, c'est mon point de vue. Mais en tout état de cause, il s'est rendu coupable d'un certain nombre d'éléments. La première, c'est qu'il s'est quand même approprié, il est pas du tout propriétaire, il s'est quand même approprié l'appartement. Mmh. Ensuite, après, il l'a loué. Donc,
tu t'appuies sur quel élément quand tu dis oui, voilà, il a pas les thèses, il partage pas les thèses terroristes? C'est quoi? C'est comportemental? C'est gestuel? C'est quoi? C'est ce qu'il raconte? Parce qu'on parle quand même d'incohérence là, non?
Oui, mais par exemple.
Je pose des questions, attention.
C'est des points de vue. Hein. Mais moi, le fait qu'il soit présenté spontanément devant les caméras de BFM TV, mais encore une fois, c'est vraiment mon point de vue.
Oui, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Le fait d'avoir.
Le fait qu'il soit présenté et le fait qu'il dise ce qu'il dit aujourd'hui dans le procès, parce que j'ai essayé aussi de lire un peu ce qu'il se dit et le parcours qu'il peut avoir. Comme ça, hein. Et encore une fois, peut-être que je me trompe, j'ai pas l'impression que ça soit un djihadiste ou quelqu'un même qui épouse les thèses des djihadistes. Je pense qu'il en fait trop sur l'histoire de, je sais pas, la prière et autres et tout, et qu'il essaye de se décaler complètement par rapport à ça. Sous-entendu, le fait de faire la prière, ça pourrait
être. Ouais, mais comme disait un auditeur, pas d'amalgame. Il y a un auditeur qui l'a rappelé aussi. Attends, c'est pas parce que tu fais la prière que t'es terroriste.
Oui, mais c'est parce que je dis, c'est que je pense qu'il en fait trop, parce que c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais dans tous les cas, il s'est rendu coupable. Nul n'est censé ignorer la loi. Il a joué, il a perdu. Mmh. Et malheureusement, il y a des vies humaines derrière. Et donc, effectivement, on a parlé du contexte, on a parlé de la manière dont ça s'est fait. Voilà, il n'avait pas le droit de le faire. Donc, légitimement, il est en prison aujourd'hui. Légitimement, il répond de ses actes. Après, que la société, et ça aussi, c'est pareil, c'est un peu comme le précédent débat qu'on est, que la société aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de coupables, eh ben, 500 parties civiles, bah oui, forcément, ça focalise, entre guillemets, on a envie de faire le procès même des terroristes, mais je pense que c'est pas la bonne personne, mais il est responsable de ce qu'il a pu mettre en œuvre. Il le doit qu'à lui-même d'être là aujourd'hui. Après, voilà, encore une fois, voilà. À la fois, je pense que moi, ça me fait penser à un irresponsable, à quelqu'un qui est inconscient, un peu comme si à quelqu'un aujourd'hui, en 2018, si vous me donnez une valise et que vous me dites voilà, j'ai besoin que tu me transportes ça, mais que surtout alors, que tu regardes pas.
Le débat est tellement passionnant. Je vais vous donner la parole. Attendez, pardonnez-moi, je vais juste marquer une courte pause. Ensuite, après, on va accueillir. Ça provoque évidemment beaucoup d'appels. Kamel de Paris, Clébert de Paris, 0153483000. Je vais donner aussi la parole à Jean-Claude Chikaya qu'on a très peu entendu, voire pas du tout sur ce sujet. Audrey, Sophia, on se retrouve dans une poignée de minutes. Restez avec nous, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Le grand déballage, il est 19h20. Merci à vous, merci de nous suivre chaque vendredi. Désormais, notez-le, le grand déballage sur Beurre FM avec Ali Soumaré, avec Jean-Claude Chikaya, avec Sophia Kelouki, avec Audrey Pronesti et avec vous-même. Vous-même, vous êtes très nombreux. Je suis ravi, je vous en remercie. Partout en France, vous nous appelez. Et c'est ça, le grand déballage. Voilà. Je veux que ça soit un vrai rendez-vous où tout le monde a droit de citer, venir s'exprimer de façon libre. Je vais accueillir Kamel de Paris. Bonsoir Kamel.
Bonsoir.
Bienvenue à toi Kamel, on t'écoute.
Merci. Alors je rentrais du boulot et j'écoutais à la radio votre collègue là, juste avant la pub.
Ali Soumaré.
Voilà, il a très très bien résumé ce que je pense.
Oui.
En fait, on voit bien que il n'a pas de profil de djihadiste terroriste, etc.
Oui.
C'est pas un enfant de cœur non plus. Parce que apparemment il a déjà tué, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Il a été condamné, il a été en prison.
Pas pour des raisons de terrorisme. Hein.
Non, pas pour ça. Mais bon, c'est pas un ange non plus. Mais il doit quand même payer pour ce qu'il a fait par rapport à la location qu'il a fait. Déjà, la location, elle est illégale. Du point de vue de la loi, apparemment, il louait des appartements qui n'étaient pas à lui.
Insalubre.
Voilà, déjà, insalubre. Déjà, il doit répondre par rapport à ça. Deuxièmement, je voulais dire aussi que je ne pense pas qu'il aurait pris le risque, en sachant qu'il hébergeait des terroristes, pour 100 euros la nuit.
C'est la thèse énorme. De Sophia, ça. C'est vrai, ça, elle trouve léger que pour 150 euros, bon, allez.
Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense pas que pour 100 euros, on irait prendre le risque de loger des terroristes qui ont tué plusieurs personnes dans des attaques terroristes, etc. Voilà, je pense que c'est un costume un peu trop grand qu'on lui taille pour lui. Et voilà, il doit quand même répondre de ses actes parce qu'il était au mauvais endroit et au mauvais moment.
Bon, bah écoute, c'est très clair, Kamel. Merci pour ton intervention.
De rien.
Merci, Kléber de Paris. Bonsoir, Kléber. Bonsoir Kléber, bonsoir. Bienvenue à toi, on t'écoute, cher ami.
Merci beaucoup. Bon, avant de vous faire part de mon propos, je voudrais dire une phrase parce qu'il y a des choses qui me gênent dans ces procès. Depuis le procès du frère de Mera, moi je suis gêné. Il me semble, à mon avis, que les familles des victimes n'attendent pas la justice, mais ils attendent tout simplement la vengeance. Et moi ça me gêne. Parce que la façon dont ces gens-là se sont pris à M. Dupond-Moretti,
oui.
Moi j'ai compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
Oui.
Parce que lorsque vous engagez des avocats à la partie civile pour vous défendre, si vous n'avez pas gain de cause, c'est à la partie civile, c'est à vos avocats que vous devriez, que vous devriez vous en prendre.
Oui.
Première chose. Deuxième chose, moi je...
Ça fait réagir Jean-Claude, je lui donnerai la parole, si tu veux bien, Kléber. Mais vas-y, deuxième chose.
Deuxième chose. Je dis que ce monsieur n'a rien à faire dans le box des accusés.
Ah bon ?
Non.
Pourquoi ?
Je vais vous dire pourquoi. Toute la presse nous dit qu'on a fouillé ses ordinateurs, on a fouillé ses téléphones. Ce monsieur n'a rien à voir avec le terrorisme. Ce monsieur, c'est un voyou. OK ? Ce monsieur s'accaparait des squats. Il faisait de l'argent en les louant.
Il le dit lui-même, il dit en accueillant ses hommes, comme disait Alice Soumaré tout à l'heure, il voulait rendre service, je referme les guillemets, il voulait gagner de l'argent, comme disait Alice Soumaré. Les djihadistes devaient payer 150 euros pour 4 nuits dans le squat, dont qualifié d'insalubre par Alice Soumaré.
Maintenant, est-ce que lorsqu'on loue un appartement, on vous demande votre casier judiciaire? Il me semble que non. Et non seulement ça, ce gars-là.
Alice Soumaré n'a pas l'air d'accord.
Non, mais enfin, déjà, il n'est pas propriétaire du logement, donc.
Il s'accaparait des squats.
Mais donc, c'est illégal.
Il les rénovait et il les louait pour se faire de l'argent. Ce gars, c'est un.
Ah, mais il vous répond, Alice Soumaré, Kléber. Il vous dit que c'est illégal.
C'est illégal. Je ne peux pas prendre l'appartement de quelqu'un et le louer aux gens. Et surtout, en plus, à Salut, parce que le logement, pour le coup, j'ai lu un rapport qui était quand même assez clair sur les conditions du logement. Donc, non, c'est pas normal de faire ça. C'est-à-dire ça, il faut qu'on se le dise clairement.
Jusqu'à maintenant, il n'est pas jugé pour ça. Il est jugé parce qu'on le considère qu'il était complice.
Oui, mais parce qu'en fait, la justice, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, on commence par juger, parce qu'il y a quand même, il a hébergé les terroristes, donc la justice doit faire un éclaircissement, et à un moment, elle qualifiera, quitte à ce qu'à un moment donné, bah, ils redescendent en correctionnel, et que, enfin, sur d'autres éléments. Mais on est obligé de rentrer au fond, et d'aller jusqu'au bout pour pouvoir voir, à un moment donné, si, oui ou non, il était complice des terroristes. On a un point de vue, les uns et les autres, là-dessus, mais la justice est obligée d'aller jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, l'ampleur que ça a pris, pas faire autre chose que d'aller jusqu'au bout et d'investiguer, parce que encore une fois, c'est pour ça que je prenais des précautions. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que finalement il a des connexions. Moi, comme ça, mon premier sentiment, c'est que c'est pas le cas, mais peut-être qu'on se trompe. Mais je pense que c'est bien que la justice aille au fond, et les vertus d'un procès, c'est avant tout de pouvoir éclaircir une question, et c'est ça qui fait qu'on est dans une société civilisée, c'est qu'on puisse à un moment donné avoir un procès équitable dans lequel chacun a le droit de citer. Ouais.
Kléber, rapidement, parce que vous êtes nombreux à nous appeler, Kléber.
Non, mais son mari, il a résumé ce que je dis, c'est à ceux qui ont déposé plainte, c'est-à-dire à la justice d'apporter les preuves. Et puis, pour terminer, alors si ce monsieur-là est condamné tout simplement parce qu'on le considère comme un terroriste, monsieur François Hollande doit être condamné parce que monsieur Cahuzac, il était au courant que monsieur Cahuzac avait un compte en Suisse.
Ouais.
Voilà.
Ne mélangeons pas tout. Merci Kléber, en tout cas, de ton intervention. Merci, non mais merci. Écoute, on l'écoute, non?
Ah oui.
Et si, écoute, je te le dis en toute liberté d'expression, dès qu'on est dans le cadre, évidemment, sans tenir évidemment les propos qu'on connaît, qui sont celles de la loi. Karim du 92. Bonsoir Karim.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, tu nous appelles d'où du 92?
De Meudon.
De
Meudon.
Meudon, bienvenue à toi, alors que je dis au revoir à Sofia Kelouki qui nous salue, qui doit partir, qui doit quitter le grand déballage. À bientôt, Sofia.
Merci à vous.
À bientôt, merci à toi d'avoir participé. Elle a une petite urgence, donc c'est pour ça que je la libère.
Merci.
Sans aucun problème. Et merci pour les chocolats. C'est vrai qu'elle nous a ramené gentiment du chocolat de Suisse.
Non, de Londres.
De Londres. Oh là là, tu vois, moi j'ai tout compris. Merci à toi. Karim, on t'écoute.
Donc, mon point de vue, c'est qu'effectivement, la justice va faire son travail dans la sérénité. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux qui font la justice. Ce n'est pas non plus les médias. Mmh. C'est des magistrats formés pour, qui vont chercher des preuves, qui en trouveront, je pense qu'ils en trouveront. Parce que, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'on craint une conviction. Et mon intime conviction, c'est que ce gars,
oui,
qui a déjà un passé judiciaire extrêmement lourd apparemment,
oui,
je pense qu'il est plus mauvais qu'il ne veut bien le dire.
Il est plus mauvais qu'il veut bien le dire, c'est ça que vous avez dit ?
Mouillé.
Mouillé, ah, il est mouillé, vous. Vous dites qu'il est mouillé, trempé dans l'affaire.
Je pense qu'il est beaucoup plus mouillé qu'il ne veut bien le dire. Je suis désolé, déjà, premièrement, s'accaparer des logements pour les louer à des gens louches, c'est bizarre. Mmh. Et vous connaissez beaucoup de bailleurs qui sont en dessous de leur immeuble. Mmh. C'est bizarre quand même qu'ils voient là à l'instant T.
Mmh. Oui,
c'est,
mais...
c'est bizarre aussi qu'ils se jettent sur les micros pour se disculper, mmh, se justifier.
Mmh. Ah ouais, vous considérez que quand ils se jettent sur BFM TV dans les micros, au micro de BFM TV, c'est pour se justifier?
Ah ben, c'est un peu ce qu'il a fait.
Ouais, se dédouaner. Bon, bon, mais bon. Oui. Bon, alors, ok,
personne, ok. Personne à ce stade ne l'a accusé de rien du tout. Mm. Pourquoi est-ce qu'il est là? Mm. Alors, encore une fois, un bailleur n'est pas forcément, ne fait pas le pied de grue en bas des logements.
Il faut même pas lui donner le statut de bailleur. Il n'est pas bailleur.
Il n'est pas bailleur.
Il n'est pas bailleur, il est squatteur.
Non, c'est autoproclamé bailleur.
Mm. Oui.
Voilà.
Donc, merci, Karim.
Là, il en sait beaucoup plus qu'il veut bien le dire.
Ouais, j'ai bien saisi. Merci pour ton intervention, Karim. Hein. Merci à toi, on va accueillir Nabil. Bonsoir Nabil.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, tu nous appelles d'où précisément ?
Je m'appelle de Trappe.
Trappe, bienvenue à toi, ça c'est le 7-8.
Exactement.
On t'écoute mon cher ami.
Bon, en fait, je voulais simplement donner mon point de vue concernant cette histoire. Effectivement, je pense que c'est un personnage qui n'est pas totalement honnête. On le voit par la justice d'habitaire concernant les tous les cas de logement. Par contre, au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'occuper la responsabilité de l'État. Mmh. La responsabilité des forces de l'ordre, qui notamment devront dépasser certaines limites lors de l'intervention qui vont être effectuée contre les immeubles. On est en train d'occuper énormément de choses, on reverse des comptes à une tierce personne qui aujourd'hui oui, en fait une erreur qui est purement administrative, qui n'aurait pu être jugée en correctionnelle. Après ça, c'est quand même une semaine.
Oui.
Et ça peut penser simplement à certaines histoires, je pense notamment à l'éducation nationale, dans laquelle on a fait rentrer des personnes considérées comme pédophiles avec des antécédents. Elle a fait toute une administration qui est associée à ces personnes-là.
Oui.
Aujourd'hui, on a le cas des Valeurs, c'est un cas qui grossit, énormément grossit, qui a nécessité deux problèmes et deux plaisirs, et qui malheureusement ne vont pas résister toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces personnes qui sont endeuillées. Voilà, c'était mon point de vue.
Bon, bah écoute, tu nous as livré ton point de vue, effectivement. Merci pour ton intervention, Nabil.
Je vous en prie.
Merci. On va, vous savez ce que je vous propose, avant de retrouver Jean-Claude Chicaïa, évidemment, on ne l'a pas écouté. On ne l'a pas entendu sur ce sujet, second sujet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de commentaires là-dessus, et c'est une très bonne chose. On va écouter tout de suite ce que je vous propose, juste histoire de marquer une petite virgule. Ça s'appelle le zapping. C'est votre nouveau rendez-vous aussi, le zapping de la semaine préparée. Avec beaucoup de rigueur, par Delphine Thébault, et on se retrouve tout de suite après.
Le grand déballage, le zapping de la semaine.
La France reste rigide en matière de consommation de cannabis. Un rapport parlementaire préconise de sanctionner les usagers, notamment par une amende allant de 150 à 200 euros.
Il n'y a pas de dépénalisation de l'usage du cannabis.
Une vidéo qui se veut choc. On y voit des migrants poursuivis par la police, aspergés de gaz lacrymogène.
Des femmes, des jeunes femmes, des hommes, des jeunes hommes sont toute la journée humiliés, frappés, caillassés.
Yann Moix qui persiste et signe dans une lettre ouverte particulièrement acerbe où il accuse le chef de l'État d'avoir instauré un protocole de la bavure.
Carrefour, qui doit donc annoncer aujourd'hui son grand plan de transformation, plan de relance, près de 3 milliards d'euros investis sur 5 ans. Mais il y aura aussi des suppressions de postes. 2400 suppressions.
Le vice-président américain reçu chaleureusement au Parlement israélien ce lundi. Mike Pence a annoncé que l'ambassade des États-Unis ouvrirait à Jérusalem avant fin 2019.
Le grand déballage, le zapping de la semaine.
Le zapping de la semaine par Delphine Thébault, que je salue. Merci à vous. Vous savez, le débat continue 0153 48 3000, et le débat continue aussi avec Jean-Claude Chicaille. Dis-moi, Jean-Claude, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus. Écoutez, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Oui, en fait, j'ai laissé les auditeurs parler. On est devant une affaire extrêmement grave. Mmh. On peut bien sûr rappeler qu'il n'y ait pas d'amalgame. Bien sûr, à chaque fois, on le fait. Mais il faut savoir que... Ce procès de Monsieur Boudaoud rentre dans un moment les plus effroyables et tragiques de l'histoire de France. Donc on peut dire ce que l'on veut, ce procès rentre dans l'histoire de France parce que c'est lié à l'attentat qui est d'un des points d'orgue de l'histoire moderne de France, et notamment sur le plan de la sécurité et de la sûreté. Donc qu'on se pose tous des questions. Et c'est bien qu'il ait été rappelé qu'il y a quand même des magistrats professionnels, les avocats et autres qui sont d'ailleurs... Il y a eu une suspension de séance il y a 4 heures du procès Boudaoud devant les outrances de l'accusé, donc du présumé...
C'est vrai que ça a failli mal tourner, cette histoire.
Du présumé innocent.
Raconte-nous ce qui s'est
alors,
passé.
Alors, si on regarde l'énoncé, je vais pas le dire, mais c'est dire qu'il dit tout et son contraire. Donc, il est... important pour nous déjà que c'est un des procès les plus complexes et un peu inédits dans l'histoire de la justice française, donc que ça nous échappe et qui peut dire s'il est coupable ou non. Il y a des indices qui peuvent, si on regarde d'un côté, le rendre coupable, et d'autres qui peuvent dire c'est vrai, il y a une certaine confusion, une ambiguïté, quand dans certains lieux de notre territoire, il peut et il se passe parfois, malheureusement, cette légèreté, cette connivence. Sauf que c'est pas si commun que cela, parce que Monsieur Boudaoud est resté plusieurs jours dans un buisson et ne trouvait pas de connivence et de complicité à l'intérieur des quartiers, comme on voudrait bien en faire un théâtre, comme malheureusement beaucoup voudraient en faire un théâtre de complicité, de connivence presque automatique. Donc on voit bien qu'il a pris des décisions qui engagent sa responsabilité. Après, il y a des magistrats au regard du droit qui vont dire « Voilà, vous avez engagé vos responsabilités. » Aujourd'hui, depuis 3 jours, on lui demande de s'expliquer, de s'expliciter. Il suffit de regarder ce qu'il dit. Malheureusement, ça joue à 3000% contre lui. Il y a eu une suspension de séance. Donc, ceux qui veulent le défendre, comme ses deux avocats, ils sont complètement... dépassé. Le juge qui veut tenir et qui doit, au nom de la République, tenir le débat a dû lever la séance. La séance a peut-être repris à l'heure où on discute et va reprendre, mais...
Elle a été levée. Non, mais expliquons les raisons.
Elle a été levée parce qu'il a proféré des menaces à l'égard
de l'avocat.
Des avocats.
Un des avocats lui dit oui, mais vous êtes un petit vendeur de.
Après,
et l'autre, il lui dit bah viens, on va dehors.
Le fait qu'on voudrait dire et relier toujours ce type de personnalité. Alors après, moi, je connais pas son parcours qui a l'air chaotique sur le plan familial et autres. Ceux qui le connaissent vraiment bien, peut-être, sont pas étonnés ou malheureusement se disent que ça pouvait arriver. Et encore que devant des choses aussi fortes, je sais pas s'il est coupable ou non. Je sais pas si on peut prévoir ce type de choses. Mais ceux qui le suivent de manière professionnelle ou familiale ont dit certaines choses. Il faut les écouter, il y a des magistrats. Mais malgré leur pouvoir de savoir et de dire, ils sont quand même dépassés depuis 3 jours par ce qu'il dit.
Ah oui, ils sont dépassés.
Et lui-même, il semble être dépassé par lui-même.
Mmh. C'est ça.
Donc au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais ce soir, on peut dire beaucoup de choses. Mais depuis 3 jours, chaque soir, dès qu'on regarde les énoncés, on on ne sait plus, on se dit, mais là, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Il faut savoir, voilà, qu'il y a des gens qui sont épleurés, qui ont perdu femmes, enfants et autres. Oui. C'est un procès historique, qu'on le veuille ou non.
Qu'on va suivre. Je vais te donner la parole, Audrey, qu'on va suivre de très près, sachez-le, puisque ça dure jusqu'au 15 février. Et nous, dans le grand déballage, on va le traiter. Audrey, rapidement, avant de marquer une courte page de pub.
Non, moi, je voulais juste ajouter, en plus des propos de Jean-Claude, c'est que par rapport à ces déclarations, on a oublié qu'il y avait deux autres protagonistes dans ce procès. Il y a Mohamed Souma et Youssef Haït Boulassen. Et les deux autres, ils ont une attitude plutôt décente envers les parties civiles.
Ils font profil bas.
Ils font profil bas, exactement. Alors que Jawed, c'est pas le cas. Donc encore une fois, c'est un point négatif pour lui. Voilà, c'est juste
un point négatif. Vous le partagez vous ou pas d'ailleurs. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0153 48 3000. Jean-Claude, rapidement s'il te plaît.
Oui, ce que je voudrais dire et ce qui a été dit. Il peut, c'est vrai, dans des lieux où certains parlent de zone de non-droit, j'aime pas tous ces qualificatifs et ces distinctions et autres. Il y a des choses qui sont faites parfois de manière faites de manière délictueuse, mais c'est des choses qui sont faites de manière délictueuse. Donc le fait que ça soit fait, je sais pas, je n'arrive pas à suivre tous ces arguments. Enfin, voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Chikaïa? Vous nous livrez votre sentiment, vous nous dites quelle est votre réaction. 0153 48 3000, le grand déballage, on vous retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous surtout.
Le grand déballage revient dans un instant. Peur FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 19h44, je vous remercie infiniment de nous suivre, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0153 48 3000, le grand déballage avec Alice Soumaré, le grand déballage avec Jean-Claude Chikaïa et le grand déballage enfin avec l'influenceuse Audrey Pronessy, puisque Sofiane vient de nous quitter il y a quelques minutes, elle avait une urgence à gérer. Et puis vous partout en France, vous êtes très nombreux à nous appeler et c'est une très bonne chose. Zora, je vais accueillir qui, Samir ou Rachid? Je commence par qui? Rachid du 94. Bonsoir Rachid.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir selon ce qui a été dit là.
Oui, on t'écoute, mon cher Rachid.
Moi je pense que dans la justice actuelle, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle accuse à tort et à travers les gens. Qui loue un appartement qui est, comment dirais-je? J'ai un écho là,
c'est pas... C'est que vous passez bien. Allez-y, on vous écoute, Rachid.
Ouais. Oui, ce monsieur qui loue un appartement alors qu'il n'est pas à lui, il n'est même pas propriétaire. N'importe qui peut louer une maison abandonnée, une cave, n'importe quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'est pas propriétaire, qu'il ne paye pas d'impôts, je comprends pas. C'est-à-dire, lui, il n'en a rien à foutre, quoi. Je pense qu'il n'est pas coupable dans cette affaire-là, moi, parce que ce qui intéresse les toxicomanes, c'est d'avoir de l'argent. Il s'en fout, lui, parce que l'appartement n'est même pas à lui. Donc, je vois pas pourquoi il irait louer ça à des gens qui vont commettre des actes indéfendables. Les terroristes sont des gens indéfendables. On peut pas défendre des terroristes. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas coupable. Il est un peu à côté de la plaque parce qu'il fume et c'est un toxicomane. Mais je pense qu'on veut faire comme l'affaire Mera, quoi. Tout simplement parce que Mohamed Merah n'est pas dans le box, alors on s'attarde sur son frère, on veut condamner son frère alors qu'il n'a rien à voir avec les attentats, son frère. Même s'il a aidé à voler un scooter, je peux très bien réparer une voiture qui est volée sans savoir qu'elle est volée. Si on me demande de faire une réparation sur une voiture, un embrayage ou n'importe quoi, c'est pas de ma faute si la voiture elle est volée et que le gars il l'a volée. Vous voyez ce que je veux dire?
Provoquer, je sens que ça va provoquer évidemment un autre débat encore, mais tant mieux, c'est une très bonne chose. Merci Rachid.
Il ne faut pas accuser les gens comme ça, on a vu avec l'affaire Grégory.
Non mais on a bien compris, Rachid.
On a dit que c'était la mère qui avait écrit les lettres, alors que c'est pas elle.
Ouais. On a bien compris Rachid, merci pour ton intervention.
D'accord, merci, au revoir.
Merci, au revoir, à bientôt, je vais accueillir Samir du 9-4 et après on passe au troisième sujet. Samir, bonsoir, bienvenue à toi.
Oui, bonsoir, moi aussi je voulais intervenir en fait. Par rapport à, je me rapproche par rapport à la personne que vous avez eu avant.
Oui.
Que bah là, on est en pays, on est en France, après toute son innocence, elle existe, on ne peut pas accuser tout le monde de terrorisme. Et je pense pas qu'il est assez fou, la personne, pour louer 150 euros 3 jours un appartement à des terroristes qui vont faire des saloperies sur Paris, quoi.
Tu partages ce que disait Rachid à l'instant, quoi.
moi, je suis tout à fait d'accord avec cette personne. Je pense plus qu'une personne qui est à côté de la plaque, comme tout jeune, voilà, il essaie de s'en sortir. Faire des petits trucs, mais je pense pas que dans sa tête, il allait louer 3 jours ou 4 jours 150 euros.
Oui. Oui.
Et prendre risquer 15 ans de prison. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'en vaut pas la chandelle. Le jeune n'en vaut pas la chandelle.
J'entends tout ce que vous me dites. J'entends. Merci Samir. Oui. Merci Samir pour ton intervention. Merci. Hein. Il est 19h47. On approche de la fin. On va encore traiter deux sujets rapidement. Mais oui, mais vous savez, j'ai laissé volontairement.
Mais c'est très bien.
Le deuxième sujet sur Jawad Ben Daoud, parce que voilà, ça a provoqué d'abord l'envie chez vous, d'abord de évidemment de commenter cette actualité, et puis surtout celles et ceux qui nous écoutent partout en France. On va parler de féminisation de la société. Ne me regarde pas comme ça, Audrey. Sinon, là, je parle juste de féminisation de la société.
Bah non, mais pour le coup, là, je suis en minorité, hein. Donc.
C'est vrai.
Ah,
non, bon.
Ah, pardon, Zora.
Il y a Zora qui est en face de toi.
Oh là là.
Alors, dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une féminisation de notre société? Est-ce que c'est le début du mâle dominant? Finalement, est-ce que on est comme certains le disent d'ailleurs, il y a une féminisation excessive de la société? Je le rappelle pour celles et ceux, vous pouvez continuer à commenter sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook notamment, où on vient de poster un teaser. Vous pouvez continuer à commenter l'actualité concernant Jawad Ben Daoud. Audrey Pornessi, la féminisation de la société.
Bon, concrètement, la féminisation de la société, elle existe. Enfin, ça date pas d'hier. Ça, on le sait depuis, je vais pas refaire les cours d'histoire, mais depuis au moins l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'émancipation de la femme, droit de vote, tout ça. Bon, bref, je vais pas tout refaire. Le fait est que c'est vrai que depuis quelques temps, la femme, c'est plus, elle fait partie de la société de consommation. Et le fait qu'elle fasse partie de la société de consommation, plus que en tant que consommatrice, mais justement en l'encourageant, eh ben en fait, ça lui donne une autre place dans la société, puisque la société et la consommation, c'est étroitement lié. Donc, c'est pour ça que je veux pas m'attarder sur le travail ou quoi que ce soit. Mais sinon, si je peux donner un exemple précis par rapport à ce qui a pu se passer dernièrement. quand il y a eu le hashtag « balance ton porc », ça, c'est un signe du fait que les femmes... elles n'hésitent pas à utiliser tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui. Je pense que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc, je le dis en toute honnêteté, je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire.
Pourquoi ça peut être dangereux? Pour quelle raison?
Mais parce que ça peut avoir des aspects pervers. Enfin, je veux dire, le hashtag balance ton porc, je reviens là-dessus. C'est certes pas le sujet par rapport à la féminisation de la société, mais dans la dénomination du balance ton porc, au-delà du fait que c'est un délit et que c'est répréhensible et que tout ça, ça dénote quelque chose de très négatif vis-à-vis de l'homme. Il y a on pointe l'homme en fait. Donc en fin de compte, alors après on connaît d'autres mouvements associatifs, des mouvements comme les fémènes, ça, tout ça, on les connaît. Et ben là, moi je trouve que là, on peut assister à un côté pervers.
Un tour de table, rapido, s'il vous plaît.
Oui,
allez, Soumaré.
Quand on parle de féminisation de la société, finalement, on parle d'une société de plus en plus égalitaire vis-à-vis des femmes. Bon, personne, je pense, peut être contre. Bien au contraire, il s'agit d'y mettre un contenu. Alors, peut-être en écho avec le débat sur hashtag balance ton porc, moi, j'ai eu un point de vue qui était différent de celui que j'ai aujourd'hui. Au départ, j'avais tendance à dire que cette société de dénonciation et autres et tout. Et honnêtement, avec le recul et en regardant à un moment donné et en faisant chacun notre introspection, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'abord, ça a interpellé.
Non, mais j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose.
Mais enfin, je rajoute dans le débat, je pense que ça a interpellé la société sur quand même des comportements. Alors ça va des comportements déviants d'hommes physiques et autres et tout, mais aussi des comportements du quotidien qu'on peut avoir vis-à-vis des femmes, qui sont des comportements finalement qui sont des comportements humiliants, ou en tout cas qui ramèneraient la femme à quelque chose qui ressemble à de la marchandise. Et ça là-dessus, et je introspection d'abord personnelle, et je pense que ça a le mérite d'interpeller. Et des fois, sur un certain nombre de sujets, malheureusement, heureusement, il faut des campagnes choc ou en tout cas des propos choc pour pouvoir se dire stop, on arrête et on commence à réfléchir à nos pratiques de manière générale. Mais il y a encore un gros combat pour revenir à la féminisation et autres et tout, notamment par exemple aujourd'hui en France, les femmes sont quand même, notamment à des postes à responsabilité, sont encore moins bien payées que les hommes. Donc c'est pas fini, c'est pas fini, mais ce combat-là est de plus en plus présent dans la société. Oui.
Jean-Claude Chikaya.
Oui, moi je souscris à ce qui a été dit. Moi je pense qu'il n'y a pas une féminisation de la société, il y a au contraire des avancées liées à l'égalité entre femmes et hommes ou hommes et femmes. Et encore, vu la feuille de route, tout ce qui reste à faire, on aimerait bien que ça aille aussi vite que le iPhone 10 par exemple aujourd'hui. On sait que le 11 arrive.
C'est vrai.
Et donc ça joue sur le quotidien des petites filles, des jeunes filles, des ados, des adultes, des parents. Ça conduit tout le monde à une introspection, et d'abord donc les hommes, les jeunes hommes, les garçons et autres. Souvent l'éducation, il y a une intériorisation qui traverse toute la société, où parfois les familles sont agents des inégalités de traitement pour femmes et hommes, et parfois ça passe par ceux qui croient ou ne croient pas, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que charrie des religions liées à la représentation qu'on se fait d'une femme? Il faut tout interroger sur le plan philosophique et autres. Et je pense que le boom, grâce entre guillemets à Hollywood, malheureusement pas grâce à Weinstein, mais le fait que ça se passe à Hollywood, ça a eu une répercussion mondiale. Si cette histoire avec le côté sordide similaire à derrière Choisis le roi ou Brie contre Robert, ça n'aurait pas eu la même répercussion qu'Hollywood. Donc je peux comprendre que celles qui se battent pour l'égalité des droits entre hommes et femmes aient pris cette occasion hollywoodienne pour que le monde soit déversé d'un coup de semonce pour
justement messieurs. Et ça m'amène une très belle transition, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ce sera le dernier sujet. Je vais parler de la mort, vous savez, de cette femme charismatique, de l'historienne Suzanne Citron, l'historienne qui appelait à dénationaliser l'histoire de France, déconstruire le roman national. Elle disait, l'auteur, elle prônait la diversité, l'échange d'inspiration, des cultures tournées vers l'avenir. Elle dénonçait notamment le repli frileux et craintif d'une identité figée sur un passé légendaire et prétendu unique. Je voudrais vous écouter un petit tour de table aussi. Jean-Claude Chikaya, Ali Soumaré.
On ne peut pas faire autrement que de laisser Jean-Claude d'abord introduire un sujet comme celui-là, parce que pour le coup...
Je tiens à vous le dire, en une minute trente. Ouais. Donc vous avez 30 secondes chacun.
Alors je peux dire que pour moi, Suzanne Citron, elle a participé à ma construction intellectuelle. C'est une pionnière sur le mythe national, sur le récit national, et notamment sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde. Aujourd'hui, il y a un gros livre qui parle de l'histoire mondiale de France, mais Suzanne Citron, non seulement elle renvoyait, mais les plus grands intellectuels et les plus grands historiens sont attention qu'on parle de la France de tous les points de vue, et même de tous les points de vue intellectuels, et c'est elle, sur le plan sociologique ou dans les grandes facs, je sais pas qui ait eu une bonne formation,
c'est vrai,
sans passer par son livre Le Mythe National, du récit national par Suzanne Citron. Achetez-le,
le roman national.
C'est d'intérêt public. Si vous lisez Huit Clos de Sartre, à la limite, mieux vaut lire Suzanne Citron.
Ça
devrait être un classique, parce que ça permet en plus, pour voir la société d'aujourd'hui où on demande de faire plus attention à la diversité nationale et aux nouvelles populations qui sont à l'intérieur du récit, faut passer par Suzanne Citron.
Bon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude? Ouais,
c'est pour ça qu'il fallait le laisser.
C'est pour ça que vous êtes bon. Elle est bon. Ben merci Ali Soumaré, conseiller régional. Merci, à très bientôt le grand déballage.
Merci à toi, merci à Beurre FM.
Merci à Jean-Claude Chikaya, chercheur à l'IPSE. Tu reviendras aussi également ici. Merci à Audrey Pronesti, journaliste indépendante. Tu reviendras également ici même dans le... grand plaisir tous et partagé. Merci à celles et ceux, vous avez été très 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 nombreux à nous appeler au 0153 48 3000. Je vous en remercie infiniment, vraiment. Merci à la réalisation Zora. On se retrouve, vous le savez, avec autant de plaisir dès la semaine prochaine, vendredi à 18h. Inscrivez-le, c'est votre nouveau rendez-vous, le grand déballage. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end.
Retrouvez le grand déballage en direct tous les vendredis de 18h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.